Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Donc nous recevons Monique et Stéphane pour parler donc du référendum d'initiative partagée sur la privatisation des aéroports de Paris. Et donc, qui est une question qui est autant une question démocratique, politique qu'économique. Donc, ouais, donc ce que je proposais, c'est qu'on présente notamment Fakir, qui est impliqué dans ce référendum.
D'accord. Je commence alors ?
Bon, je vais dire simplement que moi, je suis Monique Bouchard, donc je fais partie d'ATAC, et en particulier d'ATAC Rhône. Et que donc, bien sûr, ATAC est mobilisée sur cette question, pour différentes raisons qu'on verra au fur et à mesure de l'émission.
D'accord. Moi, je suis Stéphane, Stéphane Pagano. Je suis dans le réseau du journal Fakir, on appelle un préfet, c'est-à-dire que je représente... le journal, ses actions, et on relaie en partie les actions qui sont menées à l'échelle nationale par le journal, portées par le journal. Donc on vend le journal, on vend les bouquins du journal, et puis on fait aussi pas mal d'actions, dont notamment l'action, on s'est beaucoup investi sur le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui a été lancé poser la question aux Français de savoir s'ils sont pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris. Donc on va revenir après peut-être sur l'historique du RIP et comment ça va fonctionner, enfin comment ça fonctionne, etc. Mais voilà, mais c'est l'exemple d'action. Donc quand François Ruffin a dit il faut donner, il faut faire une claque à Macron, entre guillemets, c'était un peu son sujet. Il s'est beaucoup investi dans le lancement du RIP, en donnant gratuitement partout en France, en faisant distribuer gratuitement en France, partout en France, des flyers pour expliquer, enfin des pliants pour expliquer comment signer pour le RIP.
Et ça, c'est important, et on y reviendra, parce qu'en plus, Fakir est comme Radio Canu un média, et que finalement, ce référendum, donc, qui demande une mobilisation, on y reviendra, c'est-à-dire un certain nombre de signatures, est quand même très très peu relayé dans les médias.
Et oui, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que les médias, eux, ce qu'on a pu constater en tout cas, c'est que les médias, conventionnels, on pourrait plus dire traditionnels parce que ça n'existe plus, mais conventionnels, que ce soit l'État ou les médias privés, ont fait une quasi-impasse sur le RIP, tout simplement parce que les médias qui sont privatisés... 95% de la presse ou des médias, eux, ils sont plutôt pour les privatisations, déjà, intrinsèquement. Et les médias publics au service de l'État, notre État, aujourd'hui, il est dirigé par un groupe politique qui ne supporte pas la contradiction et qui considère que la privatisation, c'est quelque chose de normal. Donc, du coup, les médias n'en parlent pas.
Et donc, ce qui fait que ce référendum, qui pourrait être justement une occasion d'avoir un débat, débat sur les services publics, ce débat n'a pas vraiment lieu.
Non.
Alors, ce que je propose, c'est qu'on revienne déjà qu'est-ce que le référendum d'initiative partagée, comment il peut être déclenché, parce que je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu souvent. Et qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un RIP, comment ça marche.
Oui, alors... Cette bataille contre la privation de biens publics, effectivement, elle passe par deux étapes. Il y a d'abord la bataille pour la démocratie, et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler du RIP. Qu'est-ce que c'est? Comment il peut être mis en œuvre? Quelles sont éventuellement les difficultés qu'on a à le mettre en œuvre? On vient d'en parler un peu. Et deuxièmement, il y aura derrière, bien sûr, la question de est-ce qu'on doit privatiser ou pas. Alors, ceci a été mis en route parce que 248 parlementaires, en avril donc, juste avant l'adoption de la loi Pacte, qui est vraiment très importante, hein, qui autorisait l'État à privatiser la société ADP, beaucoup d'autres choses. On en reparlera si on parle de l'économie après.
Il y a Française des Jeux.
Française des Jeux, Engie et 150 des plus gros barrages. Donc ce n'est pas rien. Hein. Donc ces parlementaires ont dit qu'il revient au peuple français par voie de référendum de pouvoir affirmer ou non le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, qu'on appelle ADP. Donc, voilà comment ils ont posé la question. Mmh. Alors, ils sont 248. Est-ce suffisant? Parce qu'on va voir que quand on dépose comme ça une demande de RIP, eh ben, il y a des conditions dans la Constitution qui doivent être remplies.
Parce que là, tu parlais de parlementaires. Aujourd'hui, on ne peut pas organiser ou déclencher un référendum juste en tant que citoyen, même si on est très très nombreux.
Oui. Non, actuellement, ce n'est pas possible. Alors, ça a été demandé par les Gilets jaunes, ça a été demandé par France Insoumise, ça a été demandé par Modem, PS, avec des choses un petit peu variées, choses un peu variées. Donc c'est le RIC ou alors le RIP, mais avec des choses derrière, qui permettrait aux citoyens de demander, hein, un petit peu comme les votations citoyennes. Mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Ici, c'est le référendum d'initiative partagée qui ne peut être déclenché que par 5% des parlementaires. Le cinquième, pardon, pas oui, 5%, donc 20%. Excusez-moi. Le cinquième des parlementaires. Donc le cinquième des parlementaires actuellement, c'est 185. Mm-hmm. Ici, il y en a quand même 248 et de tous bords, à droite, à gauche, qui ont réclamé ce référendum, ce qui n'est vraiment pas rien quand même, hein, déjà. Et ça, c'était le premier point, la première condition qui est exigé, c'est l'article 11 de la Constitution. Alors après, on a un deuxième point. Il faut que cette demande porte sur des réformes relatives à la politique économique et sociale. Donc là, on est bien dans ce cas-là pour la privatisation
d'un service public
d'ADP. Hein? La troisième condition, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas eu depuis moins d'un an une proposition de législative qui ait été promulguée sur le sujet. Ça a fait un peu débat parce qu'on a vu que les parlementaires, ils ont engagé ça juste avant le passage de la loi Pacte. Mais le Conseil constitutionnel a donc dit que, étant donné que ça avait été fait, initié avant, c'était constitutionnellement recevable. Donc là, on a les trois conditions nécessaires, donc, puisque ça, c'est les premières choses. Après, autre condition, c'est par rapport aux citoyens. C'est-à-dire, pas seulement les citoyens, c'est plutôt, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu contesté parce que c'est moins large, ce sont les électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc attention, c'est pas les citoyens, c'est bien les électeurs inscrits sur la liste électorale. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut un recueil de soutien qui soit égal à 10% du corps électoral.
Mm-hmm. Est-ce qu'il
représente... Ce qui fait plus de 4,7 millions de signatures. Mm-hmm. C'est énorme.
Et dans un temps réduit.
Et dans un temps réduit, mm-hmm, c'est-à-dire le temps est fixé dans la Constitution, c'est 9 mois. Mm-hmm. Hein? Et alors, on peut le... Et c'est un recueil qui est uniquement sous forme électronique. Donc déjà ça, c'est pas très démocratique. Ça favorise pas l'accès pour tout le monde, ceux qui n'ont...
C'est uniquement, il y a la possibilité de déposer des formulaires CERFA, mais ça n'a pas été simple. On reviendra sur les problèmes de communication, mais ça n'a pas été simple, puisque on ne peut pas retirer le CERFA, le remplir et le déposer dans sa mairie. Il n'y a que certaines mairies désignées par la préfecture.
C'est la mairie de la commune la plus importante,
voilà,
du canton. Ça veut dire se déplacer.
Déplacement.
Pour les gens qui sont pas habitués à l'utilisation des outils numériques, en fait, qui voudraient juste signer, même s'ils ont accès au formulaire, en fait, ils peuvent pas le déposer n'importe où et l'accès à cette information-là n'a pas été fait non plus. Donc les gens, quand on les rencontre dans la rue pour les signatures, ils découvrent, ils ne comprennent pas, tout le monde est étonné de l'absence de simplification pour la consultation. Quoi.
Oui, alors justement, quand je dis ça, c'est que c'est électronique. C'est vrai que c'est électronique parce que même si on va à la mairie, on remplit un papier, mais c'est l'employé de mairie qui va ensuite le relayer sur Internet.
Donc c'est quelque chose qui est très cadré, très contrôlé, vu que ça a un impact, ça peut avoir un impact réglementaire.
Oui, et alors moi j'ai réussi à convaincre un maire d'une petite commune de montagne, qui est d'ailleurs pro-Macron, mais qui m'a dit, mais oui, mais c'est aberrant, parce que moi, les gens qui ne vont pas pouvoir aller sur Internet, c'est justement les personnes qui n'arrivent pas à se déplacer, ce que tu disais, Stéphane. Voilà, donc on voit qu'il y a déjà un petit peu des entraves là. Mais bon, alors déjà 4,7 millions, c'est important. Les conditions, c'est pas facile. On va voir aussi que pour aller remplir les choses, eh bien, c'est pas évident et qu'il y a eu pas mal de réclamations. Et puis alors, il y a quelque chose de très important que j'ai découvert et que certains appellent un verrou parlementaire qui vient en plus. C'est que si on a les millions de signatures, si elles sont au rendez-vous, et qu'elles sont validées par les sages du Conseil, les parlementaires n'auront qu'à confirmer la privatisation dans les 6 mois pour que le référendum n'ait pas lieu. C'est-à-dire que si les parlementaires demandent à ce que soit remis et ils confirment la privatisation, ça annule toute
vote,
la démarche.
Voilà. Ils accélèrent en fait le passage devant l'Assemblée nationale. Dans un délai de 6 mois suite à la validation, s'ils font en sorte que ça repasse à l'Assemblée nationale avant les 6 mois, eh ben, du coup, le référendum n'aura servi à rien.
Reste à espérer que les parlementaires en question continueront à garder leur position.
Ben, oui, mais attention à la majorité parlementaire, elle se situe où?
Oui. Et puis rien n'est moins sûr, si je peux me permettre de faire un commentaire, rien n'est moins sûr parce que les parlementaires de tous bords, donc de la gauche à la droite, qui, dans l'opposition, ont voulu faire, finalement, ont voulu s'opposer à la décision du gouvernement et de Macron, n'ont pas fait la campagne derrière. C'est-à-dire qu'ils ont voté, ils ont mis en place le RIP, ils ont fait en sorte que le RIP existe, mais ils ne l'ont pas fait vivre derrière.
Oui, on évoquait le peu de communication, mais c'est vrai qu'on peut se demander si les parlementaires sont allés jusqu'au bout.
C'est-à-dire qu'ils ont fait un acte d'opposition parlementaire, mais en réalité, quand la droite s'est lancée contre quand la droite, les parlementaires de droite se sont lancés dans ce processus référendaire, ils sont allés contre quelque chose qui, idéologiquement, les 30 ou 40 dernières années précédentes ont défendu, c'est-à-dire les privatisations. Donc, c'est pas étonnant après que eux, du coup, ils ont dit ok, on fait le RIP, on s'oppose au gouvernement, c'est n'importe quoi, voilà, c'est d'argumentaire de salle de débat. Et puis à la fin, quand il faut aller sur le terrain, aller voir les journaux, aller voir ces électeurs sur le terrain, dans les communes, dans les marchés, etc., pour dire attention, maintenant il y a le RIP, il faut aller vous inscrire, il faut demander ce référendum, ils n'ont pas fait le job en fait, ou très peu ont fait le job.
Oui, alors je ne sais pas si les parlementaires ont fait le job sur le terrain, comme le dit Stéphane, ça je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont bien redit que le référendum, ils ont fait une pétition en ligne pour redire que c'était pas un acte constitutionnel, que c'était un acte constitutionnel, pardon, et qui reprochait au gouvernement de ne pas diffuser l'information.
Exactement.
Ça, c'était en juillet, et ils ont demandé un rendez-vous avec Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander de lancer une campagne publique. Parce qu'on avait vu lors des rencontres suite aux Gilets jaunes...
L'organisation du Grand Débat.
Le Grand Débat.
Organisé, voilà. Donc, par le gouvernement... Et donc ses représentants, les préfets. Donc.
Voilà, on avait vu qu'organisé par le gouvernement, donc il y avait eu des placardages partout, dans les mairies, dans les offices d'HLM, etc.
Il y a eu une véritable campagne, il y a eu une vraie campagne, je crois qu'il y a eu 60 millions d'euros dépensés en campagne pour ça. Quelque chose de cet ordre-là.
Alors là, rien, il a seulement été répondu aux parlementaires par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'aucun texte ne l'autorisait à contraindre les médias audiovisuels à informer les citoyens sur cette procédure. Par ailleurs, en regardant de près, effectivement, le gouvernement n'a aucune obligation légale de mener une campagne publique. Mmh. Donc voilà, tout est dit, quoi.
Enfin, j'ai une anecdote qui est assez parlante et qui est profondément attristante, mais je vis dans un logement social qui est géré par un groupe, donc je ne vais pas dire le nom ici, qui est un des plus gros bailleurs sociaux de Lyon. Dans tous les immeubles de ce bailleur social, à côté de la cage d'ascenseur, il y a des panneaux d'affichage. Et là, par contre, il y avait des panneaux d'affichage pour le grand débat. Citoyens, venez, participez au grand débat, etc., etc. C'est-à-dire que le gouvernement et ses affidés ont réussi à aller jusqu'aux portes même de l'habitat privé, enfin de bailleurs privés, pour faire afficher son... Et là, il est incapable, ou, enfin en tout cas, on voit bien qu'il manifeste contre la diffusion de cette information-là. Puisqu'il y a même, et je vais vous donner un autre exemple, il y a même des stands de gens qui ont organisé des stands ou des lieux de signature dans la rue parce que c'est quand même on est quand même sur un acte de citoyenneté, on est quand même sur un acte qui est quand même constitutionnel. Il y a des personnes qui se sont vues envoyer la police municipale, voire la police nationale, pour qu'on leur demande d'arrêter d'informer les gens, de distribuer les tracts et d'informer les gens sur ce référendum, ce qui est quand même une chose assez incroyable.
Bon, oui, dans les difficultés rencontrées, là tu dis les équipes qui militent pour faire signer, hein, le Conseil constitutionnel a souligné que, bon, j'ai le chiffre d'il y a 4 mois, alors on peut penser que ça sera encore un peu plus important. Depuis le début des opérations, il y avait eu 4000 réclamations qui étaient dues pour l'essentiel à la prise en main du site internet, mmh, hein, pour le recueil des soutiens, c'est-à-dire pour son ergonomie, mmh, la manière dont il fallait remplir, etc., les fiches. En plus, l'institution de contrôle a relevé que le dépôt des signatures avait été entravé durant un peu plus de 2 heures, le 18 septembre, et a demandé donc à ce moment-là au ministère de l'Intérieur de prendre toutes les précautions utiles afin d'éviter d'une pareille interruptions se reproduisent. Mais on
peut vérifier qu'on est bien enregistré.
Alors justement, quand on va remplir donc sur Internet ou alors sur la fiche papier, le CERFA, hein, qu'on va rendre après à la mairie, eh bien dans tous les cas, il faut veiller à bien suivre les règles d'écriture qui sont sur sa carte d'identité ou carte électorale, c'est-à-dire bien mettre les majuscules, bien mettre les espaces, bien mettre
les tirets peut-être,
tous les tirets, les points s'il y en a, bien mettre tous ses prénoms, enfin vraiment, c'est pas très compliqué,
dans
mais
le même
vraiment
ordre. Dans le même ordre que sur la carte électorale.
Oui, c'est pas très compliqué. Hein. Mmh. Mais
ça fait un peu peur. On a l'impression qu'on pourrait facilement se tromper, que c'est très intrusif, qu'il faut prouver plein de choses.
Une fois, j'ai fait signer une personne dans la rue, et en fait, sur sa carte d'identité, il y avait son nom en français, son prénom en français, et elle est sur les listes électorales, elle était inscrite avec son prénom en espagnol. Et ben, pour pouvoir faire signer, on a cherché et on a fini par se rendre compte qu'il fallait mettre son nom en espagnol, son prénom en espagnol, et ça ne marchait pas sinon.
Alors, pour être bien sûr qu'on est bien dans les signataires, il faut demander le récépissé. Qu'on fasse le travail par internet ou qu'on le fasse sur papier à la mairie la plus grosse de son canton, il faut demander le récépissé. C'est la preuve que vous allez être sur la liste. Et ensuite, on peut, grâce à ce récépissé, aller vérifier qu'on est bien sur la liste. Mais alors, le récépissé, c'est tout à fait important.
Mais imaginons quelqu'un qui a déjà signé, qui n'a pas demandé de récépissé, donc là, c'est trop tard.
Bah, normalement, le récépissé, on le reçoit, il apparaît au moment où on fait la signature en ligne. Il apparaît, on a la possibilité de le télécharger. Il y a un numéro de référence qui apparaît. Si on ne le télécharge pas, bah, on ne l'a pas. Donc voilà, il n'est pas envoyé par mail par exemple, on est obligé de mettre son adresse email, mais par contre on ne le reçoit pas automatiquement.
Alors, autrement, on peut vérifier quand même, parce que moi, je vois, j'ai signé sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, je n'avais pas eu le récépissé et il ne me l'a pas envoyé. Mais je suis allée vérifier en allant sur le site www.referendum.gouv.fr. Hein, vous pouvez, en mettant... Alors, à nouveau, hein, attention, votre nom, bien vos prénoms, et puis les renseignements qu'on vous avait demandé, en gros, hein, votre commune. Attention, ce n'est pas le numéro de code postal qu'il faut mettre, c'est bien la commune. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Bon, si on fait ça après, on peut aller voir. Moi, j'ai été vérifiée que j'avais bien signé. Et c'est marqué, après, en voulant, par Internet, on le voit. C'est marqué. Voilà. Mmh.
Ok. Bon. Donc, on disait plus de 4 millions.
4,7 millions.
D'ici le 12 mars. Le 12 mars, c'est pas demain, mais c'est après-demain. Hein. C'est très proche. Et aujourd'hui, on en est où dans ces signatures?
Plus de 1 million.
On a à peine dépassé le million, oui.
Donc, il en manque encore plus de 3 millions.
Oui.
Alors, Attac dit que si chacun des signataires faisait signer 4 autres personnes autour de lui, on arriverait aux 4,7 millions.
Ça paraît.
Voilà, donc à chacun de voir ce qu'il a à faire.
Il n'y a plus qu'à.
Donc là, on était dans la partie un peu technique des choses. Peut-être que avant de revenir sur les enjeux.
Bah de revenir également sur qu'est-ce que ça veut dire privatisation des aéroports de Paris et pourquoi.
Je vous propose une petite pause musicale.
Merci. Écoutions Chico Buarque, la samba de Orly, pour nous mettre effectivement dans le sujet donc, du référendum contre la privatisation des aéroports de Paris.
Oui, alors juste avant de reprendre les discussions, je voulais quand même dire quelque chose qui me paraît moi très important, c'est je voudrais rendre un hommage aux Gilets jaunes et à tous les gens qui ont participé à ce mouvement. D'abord parce que je suis... comme dit Emmanuel Todd, j'étais très fier de voir ce mouvement quand il est apparu. Ça m'a redonné la fierté d'être français, mais surtout par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, par rapport aux signatures, etc. Aujourd'hui, en France, les gens qui dépensent le plus d'énergie depuis le départ, c'est-à-dire depuis le lancement de ce processus référendaire, ce sont les Gilets jaunes. C'est-à-dire que moi j'ai distribué avec Fakir, on a distribué des dizaines de milliers de tracts. Enfin, c'est pas Fakir, c'est Picardie Debout, parce que Fakir ne peut pas le faire. Donc c'est Picardie Debout a distribué des dizaines de milliers de tracts en France, des milliers d'affiches pour inviter au processus référendaire. Et la majorité de ceux qui les ont distribués, en tout cas pour moi en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis sûr que c'est pareil dans beaucoup de régions de France, c'était des Gilets jaunes. C'est-à-dire que je dis pas que les autres groupes ne font rien, c'est pas du tout ça, mais je voudrais vraiment leur rendre un hommage quand même, parce que ils sont sur le terrain, ils organisent des tables de signatures, ils organisent des journées d'information, etc. Et vraiment, voilà, on peut dire que non seulement moi j'ai redécouvert grâce aux Gilets jaunes le débat démocratique autour des ronds-points, dans des assemblées que je ne vois même plus à l'Assemblée nationale, mais en plus ils vont sur le terrain et ils font des choses, quoi. Et vraiment, je tenais à leur rendre hommage. Alors, on peut continuer.
Oui, moi je partage tout à fait. Hein, ça attaque et solidaire aussi, et a appuyé effectivement les combats des Gilets jaunes.
Hein. Et donc, il y a d'ailleurs une soirée organisée, mais on en reparlera dans l'agenda en fin d'émission.
Et donc que contient justement le... Parce que le référendum, c'est aussi un texte donc, sur lequel on apporte son soutien ou pas.
En fait,
un texte avec des arguments, je veux dire.
Oui, alors, si on veut parler de... Vous voulez dire qu'on parle de la privatisation d'Allemagne.
C'est une partie du sujet.
Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette privatisation, elle s'inscrit dans un cadre qui est plus large, qui est le cadre de la loi Pacte. Et il n'y a pas que la privatisation des aéroports de Paris, il y a aussi la privatisation de la Française des Jeux dans le Lot.
Engie et les 150 barrages.
Voilà, et les 150 barrages. Le premier argument en fait du gouvernement, ça a été de dire on va les sous de la vente de ces trois, en tout cas déjà principalement de ces trois ressources qui sont la Française des Jeux, Engie et l'aéroport de Paris, on va investir dans un fonds de capital risque pour créer les futures les start-up, pour créer les futures grandes entreprises du numérique, etc. etc.
Alors, mais c'est un petit peu, comme tu disais, on vend une ressource, donc c'est un petit peu une vision à court terme, parce
exactement.
Que cette ressource, justement, elle rapporte. On pourrait aussi mettre ce qu'elle rapporte dans ce fonds de soutien.
Alors justement, là, il y a quelque chose qui est très important, je pense qu'il faut absolument souligner, c'est que l'argument de la privatisation, c'est de dire que le privé est un meilleur gestionnaire que l'État. C'est ce que je demande à voir déjà, mais bon, ça, bon, voilà. C'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est de dire, le contre-argument de ça, c'est très simple, c'est de dire, mais pourquoi investir dans du capital risque? Alors, si l'État est un mauvais investisseur, pourquoi est-ce qu'il va investir dans du capital risque? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours des arguments contradictoires quand on est face à cette logique-là. La deuxième chose, c'est que ce que va rapporter cette privatisation, ces ventes, etc., etc., c'est entre 800 millions et un, y a, en, pardon, ce que ça, ce que à l'heure actuelle ces trois entités rapportent à l'État, c'est entre 800 millions et 1 milliard d'euros par an. En gros, hein, ça varie 700, 800, 1 milliard en fonction des années depuis. Et ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser l'argent de la vente pour placer cet argent. Bon, une partie va aller dans une très petite partie, c'est pour alléger la dette de l'État, 5 milliards sur les 2000 et les brouettes, bon, c'est peanuts. Mais surtout, le placement qu'ils vont faire pour pouvoir ensuite récupérer cet argent et l'investir en capital risque, c'est 250 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en gros,
ils
vont, on perd entre 800 millions et 1 milliard par an. pour gagner 250 millions par an qui vont être investis en capital risque. Donc on voit bien que le sujet, il n'est pas là-dessus, quoi. Et c'est autre chose qui se joue, quoi.
Et le problème, c'est qu'avec la vente, on ne perd pas seulement ses ressources annuelles, c'est qu'on perd, on perd tout, des infrastructures.
Exactement. Alors c'est le deuxième point que je voulais aborder, mais vas-y si tu veux.
Oui, non, je voulais revenir sur ce que le gouvernement dit pour justifier. Donc effectivement, il dit qu'entre autres... Il défend le fait qu'une entreprise de service public n'a pas à gérer des commerces, des boutiques de luxe, etc., se trouvant dans les aérogares. Ce qui est un argument absolument faux, parce que ce n'est pas interdit, effectivement, de recevoir des redevances, de percevoir pour l'État des redevances qui permettent d'alimenter le service public. Au contraire, elles sont même les bienvenues.
Oui, tout à fait.
Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les gares. Les gares, et où on ne remet absolument pas en question ceci.
Ces commerces, ce n'est pas l'essentiel d'Aéroport de Paris.
Non. Enfin,
c'est d'avant tout une infrastructure aéroportuaire, avant d'être un
centre
commercial.
Alors, la deuxième justification, c'est effectivement qu'ils voulaient abonder à hauteur de 250 millions d'euros un fonds pour une innovation par rapport à Internet,
le
numérique, sur le numérique, l'intelligence artificielle, etc. Et ça, c'est vraiment une mascarade. Parce qu'en fait, ADP rapporte, donc on a dit, hein, 170 millions de dividendes par an avec des perspectives de forte croissance. Et en fait, donc, ADP rapporte largement autant de ce dont on aurait besoin pour ce fonds. Donc, c'est vraiment... une entreprise qui rapporte à l'État et on brade, donc c'est une rente qui va être perdue, quoi.
Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va en aborder plusieurs. Le deuxième point qui me paraît, moi, très important à aborder et qu'il faut que les auditeurs comprennent bien. Enfin, comprennent bien, pardon, je ne veux pas me mettre à faire de la pédagogie, je ne suis pas macroniste. Le deuxième truc qui est important, c'est que il y a un patrimoine. Déjà, la privatisation, ils appellent ça... au début, ils parlaient de privatisation, après, ils ont parlé de concession sur 70 ans, etc. C'est-à-dire que quand on a commencé à contre-argumenter les premiers arguments du gouvernement, déjà, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il a utilisé il a dit que c'était... que c'était juste parce que le privé c'est mieux. Ensuite il a dit que c'était pas une privatisation, c'était une concession. Et puis finalement après il a dit que ce serait que 20%, etc. Et chaque fois qu'on va, on va contre lui, il se prend les pieds dans le tapis. Et juste un truc, la privatisation, la concession, elle va se faire sur, il va y avoir deux contrats. Ils vont séparer en fait la partie exploitation des aéroports de Paris de la partie patrimoine déjà. Donc c'est avoir deux, il va y avoir deux opérations. La partie patrimoine, c'est pas rien. C'est tellement pas rien que il y a un consortium qui, enfin, il y a plusieurs. La première réaction, c'est que tous les élus qui sont d'Île-de-France, qui sont concernés par le fonctionnement économique de l'aéroport de Paris, ont dit mais on peut pas laisser partir ça. Donc ils ont commencé à réfléchir pour créer un consortium, ce que l'État a pas du tout apprécié, parce que eux, à mon avis, ils savaient déjà à qui ils voulaient vendre. Mais c'est pour dire à quel point c'est structurant, c'est un équipement structurant pour l'économie du territoire de la région parisienne, et puis c'est structurant du point de vue de même national.
Oui, puis même au niveau de l'aménagement des territoires, voilà. Que convergent les transports, les...
Exactement, donc on peut pas dire que c'est anodin. Il y a en fait le patrimoine d'ADP qui va être mis en concession pendant 70 ans, il n'est pas vendu donc, hein. Il est mis en concession pendant 70 ans, avec une obligation pour l'État de le racheter au bout de 70 ans. Ce qui est quand même un truc assez dingue. L'argument, c'est de dire que dans
donc
70 ans...
On le vend et on le rachète.
On fait une concession, et comme on... Voilà. On dit que la concession dure 70 ans parce que c'est un gros investissement pour celui qui va racheter les parts, enfin, qui va racheter le... Et après, on justifie que probablement dans 70 ans, ça aura perdu de la valeur. Alors, expliquez-moi comment, hein, dans la région parisienne, le patrimoine foncier peut perdre de la valeur. Du coup, l'État s'engage à le racheter en fin de concession. Donc,
sauf que ce n'est pas lui qui va en fixer le prix.
Exactement.
Compte bien que le privé qui l'aura en concession saura fixer un prix.
Exactement. Donc, il faut savoir que le mètre carré dans la région parisienne, ça coûte très cher. Que ça soit pour des activités économiques comme les échanges, le transport, la logistique, l'hôtellerie, la restauration, enfin tous les équipements et les services qu'on peut imaginer autour d'infrastructures de transport d'envergure internationale, tous ces équipements-là, en fait, ils vont pouvoir bénéficier via du copinage d'un accès à un patrimoine foncier qui jusqu'à présent était géré par ADP.
On a idée de justement ce patrimoine foncier.
Je vais retrouver la surface, mais c'est, je crois que c'est de l'ordre.
C'est très important, hein, la surface foncière.
Je vais pas dire de bêtises.
Je crois que j'avais lu que c'était je ne sais pas combien de milliers d'hectares et quasiment un des principaux patrimoines fonciers
d'Île-de-France.
Oui,
alors, attends,
oui.
Je vais. 8000 hectares, voilà. On parle de 8000 hectares. Vous imaginez 8000 hectares en région parisienne, en plein milieu des infrastructures, d'infrastructures de transport international. Vous imaginez bien que voilà, bon, ça, en termes de possibilités d'investissement, même si, alors ce qui est bien précisé dans le projet de loi, enfin, c'est bien précisé que normalement celui qui aura la concession ne pourra pas céder ses concessions à qui il veut sans l'intervention de l'État. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est ce qu'on a vu, c'est que ADP, à l'aéroport de Toulouse, par exemple, il y avait des pactes d'actionnaires qui avaient été passés entre l'État et le concessionnaire, et que finalement, le concessionnaire faisait un peu ce qu'il voulait. Mais bon.
Et d'ailleurs, quel serait justement là dans ce cas-là, le contrôle de l'État, et est-ce qu'il a encore un pourcentage dans la gouvernance de
Dans le projet tel qu'il est à l'heure actuelle, l'État n'a plus de parts, en fait. Donc il cède ses parts pour 70 ans. Donc on est.
C'est pour ça que c'est quand même grave, parce que c'est la question de la maîtrise par l'État d'enjeux stratégiques, quand même. Hein. L'État, c'est lui qui exerce les missions de service public, la gestion des infrastructures, la construction, etc. Mmh. Donc, ça renvoie, en plus, tel qu'il veut être mis en place, à un projet de société que beaucoup ne partagent pas actuellement, mmh. Quand on prend en compte les données écologiques, les données sociales, les données économiques. Hein. Mmh. Et on voit que depuis 1986, il y a eu quantité de privatisation. Mmh. Et donc 50% des entreprises publiques ont été privatisées, mmh. Avec des conséquences désastreuses à la fois pour l'État, par un manque à gagner.
Bien sûr.
D'autant plus que on dit que le privé, tout à l'heure tu disais, on dit que les privés gèrent mieux que le public. Or, en fait, on s'aperçoit que non, parce que le privé, généralement, il met des sous pour ses actionnaires. Mmh. Et puis on s'aperçoit, et ça a été le cas même pour les autoroutes, par exemple, on s'aperçoit que l'État, lui, il met des chèques pour que ça fonctionne. C'est par rapport au coût que ça représente. Mmh.
Puis, effectivement, la qualité de la gestion est une chose, mais où vont les bénéfices une fois bien gérés, c'est bien ça le problème.
Oui. Et si l'État était, pardon pour l'expression qui est un peu paternaliste, mais avant on parlait de gestion en bon père de famille, d'accord. Si l'État, le gouvernement qui se prétend un bon gestionnaire de père de famille, du patrimoine des Français, il ne braderait pas le patrimoine commun pour des trucs à court terme. C'est-à-dire que je vais parler un peu économie, mais on ne finance pas du court terme avec du long terme. C'est-à-dire que on ne peut pas. Je prends un exemple. Vous êtes une entreprise, vous êtes sur un marché international, vous êtes en bourse ou etc. Vous êtes la valeur de l'entreprise, elle est évaluée sur son capital matériel et immatériel. D'accord, c'est donc ce qu'elle possède, les infrastructures qu'elle possède, les équipements qu'elle possède, etc. etc. Et ben, un État, c'est la même chose. Un État, au niveau international, sur les marchés internationaux, quand il emprunte, quand il prend des décisions, quand il négocie avec ses partenaires financiers, quand il négocie avec ses partenaires institutionnels ou avec d'autres États, son poids, c'est aussi ce qu'il possède.
Donc en fait, il perd de la valeur.
Exactement. C'est-à-dire que, en fait, en vendant et en privatisant, on perd On peut dire oui, on peut toujours trouver des arguties pour dire mais oui, alors ça sera mieux géré si c'est un tel, etc., etc. Ce qu'il faut, on le sait, on a le retour d'expérience. Mais en plus, ça ne, c'est enlever en fait du crédit, c'est enlever du poids en fait à la France et aux Français. C'est-à-dire que je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que le bien public et l'État, c'est le patrimoine du pauvre, quoi. C'est-à-dire que celui qui ne possède rien lui-même, il est au moins français, il est au moins citoyen d'un pays qui a des routes, des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des services publics, des biens matériels dont il peut profiter pour vivre. Voilà.
Et c'est bien ça le principe du bien commun, même si justement on utilise pas, on n'est jamais amené à prendre l'avion. Exactement. En région parisienne, ça fait partie du bien commun de l'État.
Et c'est une perte, et c'est oui. Même une perte, c'est-à-dire que moi j'invite les gens qui sont très préoccupés par les questions écologiques à ne pas se désintéresser de la vente d'aéroports de Paris, parce que je l'ai entendu parfois, je dis mais ADP c'est des aéroports, les aéroports on sait le passé, il faut c'est un peu comme les investissements verts, il faut sortir des investissements fossiles pour aller dans les investissements, mais en fait la question elle est pas là, d'abord, c'est patrimoine français, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de réinvestir. C'est beaucoup de rentrées d'argent qui pourraient être utilisées pour être réinvesties dans autre chose. Donc, c'est un mauvais raisonnement de dire, ah ben, de toute façon, les aéroports, machin. Ensuite, c'est pas la France toute seule qui va décider si le trafic aérien va augmenter ou va baisser. Il va augmenter, il continue à augmenter. Donc, il va rapporter encore plus d'argent. Donc, soit l'État garde la possibilité d'avoir une influence sur le coût du transport aérien, en taxant ou pas, via l'aéroport de Paris, etc., etc. C'est-à-dire que pour l'aéroport de Paris, c'est un moyen. Voilà, c'est une ressource et un moyen d'intervenir, en fait.
Donc oui, c'est privatisation, voilà. Et en partie...
Je voudrais juste rajouter une petite chose à ce que vient de dire Stéphane. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que ce patrimoine foncier est important. Mm-hmm. Et en plus, l'État, en vendant ou en concédant, on va dire, ouais, hein, l'usage...
En faisant une fausse concession.
L'usage de tous ces patrimoines fonciers, c'est aussi abandonner des perspectives d'évolution, d'utilisation de ce patrimoine foncier. En particulier, oui, quand même, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie et de développement durable, etc. C'est-à-dire en ressources de terres agricoles, par exemple, surtout en région parisienne. Donc, en fait, l'État abandonne ses possibilités de restructurer et d'envisager un avenir différent. C'est ça. Oui. C'est la privatisation d'espaces publics. Mmh. Donc, en fait, l'État abandonne au privé, finalement, des terres, un bien qui profite non plus au collectif, mais qui profite qu'à des intérêts privés, finalement.
Alors, certains disent que c'est un cadeau de 8000 hectares. C'est un cadeau à Vinci. Mmh. Parce que on lui a enlevé Notre-Dame-des-Landes et que du coup on lui promet autre chose, mais alors, en particulier pour les terres.
Hein. Alors c'est effectivement le discours que certains disent, et il n'est pas complètement faux. Il est même reconnu d'ailleurs par les concessionnaires autoroutiers, puisque les concessionnaires autoroutiers disent, en fait, ils se tournent vers les investissements comme les aéroports parce que ils savent que leurs concessions vont être amenées à être renégociées dans quelques années, et donc ils se disent, il faut qu'on aille du coup investir ailleurs. Donc on voit bien que c'est un vrai jeu de passe-passe qui est fait pour les maintenir, en fait. C'est pas dans notre intérêt à nous, c'est dans leur intérêt à eux. Et on essaie de préserver leurs intérêts à eux.
Et puis il y a l'expérience je remets mon petit micro en route, et je pense qu'il y a l'expérience aussi des autres privatisations dans le domaine de l'aménagement du territoire sur les autoroutes en particulier.
Oui. Non,
vous l'avez déjà évoqué. Toulouse.
Ah, Toulouse, oui, c'est quand même un cas d'école. Toulouse.
C'est un cas d'école. Et à chaque fois, on a vu que de toute façon, l'État perdait. Et même dans des structures d'économie mixte, partenariat public-privé, société d'économie mixte, société publique locale, etc., à chaque fois, le public y perd. Parce que de toute façon, le public, l'État ou les collectivités locales abandonnent du contrôle. Mmh. Et n'ont pas les moyens de contrôler, d'ailleurs.
Bien sûr. En fait, et puis, il y a, encore une fois, c'est toujours un rapport de force. Donc, forcément, quand l'État prend la décision de privatiser, ça veut dire qu'il est, il est conseillé par des gens qui sont avant tout préoccupés par le, les retours sur investissement. Et donc, bref, on peut prendre.
Est-ce qu'on peut revenir de façon sur Toulouse.
Moi je vais en parler aussi. Hein. Donc cette privatisation qui avait d'ailleurs été qualifiée d'échec par la Cour des comptes. On a vu en fait que cette société d'abord chinoise, hein, qui a caché son nom d'ailleurs, parce qu'il y a eu une société qui a été créée et qui a été créée dans des îles, dans un paradis fiscal, je ne me rappelle plus son nom, dans un paradis fiscal en tout cas, plus une autre qui était... une entreprise d'État chinoise, donc tout ça on ne le savait pas. Et en fait, on a vendu cela et très rapidement on a vu que le bénéfice a été distribué, alors que jusqu'à présent c'était 50%, et il a été distribué à 100% en dividende aux actionnaires.
Alors, je peux me permettre de dire un truc là-dessus ?
Et en plus, les actionnaires se sont servis dans le fonds de réserve de l'aéroport se rémunérer, avec en plus l'accord de l'État.
Alors donc, c'est ça qui est dingue. C'est ce que je voulais préciser. Ce qui est incroyable et ce qui va se produire forcément. En fait, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ce qui s'est passé avec l'aéroport de Toulouse, c'est que bon, d'abord le contexte a fait que ça a été annulé. Enfin, donc on va reparler aussi de ça, mais. L'acheteur s'engage à investir. Le bon gestionnaire qu'il y avait avant, le bon gestionnaire public qu'il y avait avant, il disait, ben, chaque année, on met en réserve 50%, on provisionne 50% des bénéfices, et on se constitue comme ça un fonds qui permettra d'investir, etc., etc. Ce que toute entreprise bien gérée doit faire. Le gars, il arrive, il achète le truc, et puis ça lui rapporte pas assez, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se prend des dividendes, il se verse des dividendes, mais pour pouvoir se payer ses dividendes, comme s'il estime que ça lui c'est pas assez rentable, il va puiser dans le fonds de réserve, c'est-à-dire qu'il va commencer à siphonner le fonds de réserve. Toutes les collectivités territoriales qui ont vu ça arriver, elles ont dit, mais c'est quoi cette pagaille-là ? Donc elles sont montées au créneau, et ce sont elles, c'est pas l'État, ce sont elles qui ont attaqué en fait la décision de la privatisation, parce que l'État, lui, s'était fait complètement embobiner. En fait, il ne s'est pas vraiment fait embobiner, puisqu'en fait, il avait passé un pacte d'actionnaires secrets. Macron avait passé un pacte d'actionnaires secrets entre l'investisseur chinois et l'État, pour dire que l'État, de toute façon, c'était un pacte d'actionnaires sur le nombre de voix en décision au conseil d'administration. Donc l'État, en fait, avait déjà secrètement passé un pacte d'actionnaires qui rendait la décision qui ne permettait pas à l'État de contrer les décisions de l'investisseur. Donc, et c'était un pacte secret, on l'a découvert après. Donc quand l'investisseur a dit, ben moi, je vais me verser tant de dividendes, lui, il n'a rien dit, quoi.
Mais il avait créé les conditions pour ne pouvoir rien dire.
Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à cette approche-là. Et là, en l'occurrence, c'est Emmanuel Macron qui a monté cette privatisation, enfin, qui l'a finalisée. On ne peut pas lui faire confiance pour ne pas reproduire la même chose avec Aéroport de Paris et les autres concessionnaires, quelles que soient les concessions qu'il va faire. Puisque de toute façon, il ne cherche pas à préserver notre bien commun. C'est pas son objectif. Il cherche en fait à faire tourner la machine financière des investisseurs. Voilà.
Et pour illustrer cette meilleure gestion du privé, on voit la Toulouse comme celui qui a acheté. Il estime que il a une rentabilité due. S'il l'a pas, et c'est parce qu'il a pas bien géré, il pique dans les réserves.
Il va chercher dans le fond.
Voilà. Et là, il a fait une plus-value de 70% en 5 ans.
Et aujourd'hui, comme la vente a été cassée. Il est en train de. Il a dit, bon, bah, ok, moi je revends. Il a acheté 307 millions, je crois, ou un truc comme ça. Il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais revendre 500 millions. Et donc maintenant, la vente a été cassée, donc il est obligé de vendre. Et donc, on attend des repreneurs, dont peut-être l'État, finalement. Ou en tout cas, un consortium qui serait là, qui va mettre 500 millions sur la table, quoi.
Sans récupérer son fonds de réserve.
Donc, c'est un truc de fou, quoi. Et tout ça. Et Toulouse-Blagnac, c'est hyper intéressant aussi. On parlait de l'impact de ce type d'équipement structurant pour le territoire. ADP, c'est national, c'est local.
C'est international.
Mais c'est national. Mais si on prend Toulouse-Blagnac, les équipements Toulouse-Blagnac, c'est pas que ça, c'est aussi toute l'industrie d'Airbus et de tous les sous-traitants, c'est une infrastructure structurante aussi au niveau économique. Donc laisser des apprentis sorciers qui sont là que pour faire du court terme, tout d'un coup prendre le contrôle de ces équipements structurants, c'est une catastrophe. Enfin, il y a un autre argument, je peux...
Si autre.
Il y a un autre argument qui est hyper important, c'est qu'ils disent on dit c'est une frontière. C'est une frontière. Donc, le gouvernement, il dit oui. Alors, les Antilles disent c'est une frontière, on ne peut pas laisser la frontière être gérée par le privé. Et le gouvernement dit le gouvernement restera dans sa fonction régalienne, on fera les contrôles comme ça, on mettra tels équipements, etc. Sauf que quand il n'aura plus la gestion physique du parc, il faudra qu'il négocie avec le privé pour les aménagements nécessaires à la sécurité.
Et payer.
Et voilà. On va les payer.
Voilà. Il faudra aussi...
L'État les paiera.
Qui va contrôler l'information qui va circuler? C'est-à-dire que... je vais prendre un exemple. Comme c'est la sécurité d'un aéroport, c'est de l'information, c'est-à-dire où sont les portes, où sont les réseaux, où sont les systèmes de sécurité, où sont les caméras, où sont les ceci, où sont les cela, où sont placés les postes de surveillance, bref. Où arrive tel avion de telle compagnie, comment il est alimenté, où passent les réseaux. Toutes ces informations-là, elles vont plus être gérées par l'État ou par l'exploitant actuel, elles vont être gérées par des compagnies privées. Quid de cette information-là? On sait qu'en général, l'information des entreprises privées, elles considèrent que c'est un capital, l'information, donc qu'est-ce qu'elles en font?
Ça se vend.
Elles le vendent. Donc,
Et là, c'est quasiment une entrave à, effectivement, une action régalienne de l'État.
C'est ça, c'est-à-dire que ça va en contradiction avec le rôle de l'État, qui est de s'assurer que cette frontière-là fonctionne bien. Et que les gens sont bien en sécurité. D'ailleurs, aux États-Unis, il ne faut pas s'y tromper, hein, aux États-Unis, ils font des concessions sur les parties commerciales. Et d'ailleurs, il y a un membre du gouvernement qui est un conseiller de Macron qui fait partie d'une boîte, qui intervient dans une de ses concessions aux États-Unis. Mais bon, on ne va pas faire le truc. Mais par contre, aux États-Unis, qui est pourtant un pays plutôt libéral, tous les aéroports appartiennent à l'État.
C'est une question que j'allais poser. Est-ce qu'on a des exemples de grands aéroports internationaux qui sont privatisés dans d'autres pays? Alors, si déjà, ce n'est pas le cas aux États-Unis.
Ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas en Allemagne. Je veux dire, alors je ne sais pas en Grande-Bretagne si c'est le cas, mais il me semble qu'en Grande-Bretagne c'est pas privatisé non plus. C'est-à-dire que ce qui est privatisé, c'est l'exploitation commerciale de certaines parties. Mais le reste, c'est
comme le temps tourne. Ouais. J'aimerais que vous fassiez une petite synthèse finalement du risque porté par la privatisation d'ADP, que ce soit en termes. Donc on a vu où je vais le faire rapidement. Abandon de profit économique. Mm-hmm. Abandon d'une souveraineté nationale sur la sécurité, pas uniquement la sécurité des frontières, mais aussi sur la sécurité sanitaire. Il faut quand même pas oublier que la sécurité sanitaire fait partie des obligations.
Et quand on parle de frontières, on n'est pas seulement sur la frontière nationale, on est sur les frontières européennes
internationales.
Abandon aussi d'un patrimoine foncier qui pourrait permettre d'évoluer dans le temps sur des stratégies d'aménagement
de territoire.
Voilà. En gros, j'ai fait la synthèse de tout ce que vous avez dit.
Abandon des missions de service public.
Voilà, abandon des services.
Il y a une chose
publique. De l'état des enjeux.
Je disais ça parce que, comme le temps tourne, il faut parler absolument de la soirée.
Exactement.
À la bourse de travail.
Je voudrais juste rajouter dans ce truc-là, avant de parler de la soirée. Il y a quelque chose dont on ne parle plus en France et qui est une catastrophe, dont on ne parle plus depuis la fin des années 80. C'est ce que s'appelle, c'est ce qui s'appelle la péréquation. C'est-à-dire que quand l'État aménage le territoire, met en place des services pour la population, pour sa population, il y a des services où c'est rentable et des services où c'est pas rentable. Et ce sont les services qui sont rentables qui financent ceux qui ne sont pas rentables. Ça s'appelle le principe de péréquation.
C'est un des grands principes du service public.
Exactement.
Avec la continuité du service.
Exactement. Et en fait, on a tellement été colonisés par la question de rentabilité. On dit, bah, l'État se débarrasse de ce qui n'est pas rentable. En plus, là, il se débarrasse de ce qui est rentable. Il faut arrêter les activités qui ne sont pas rentables, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a déstructuré, désaménagé le territoire et qu'aujourd'hui, en France, on ne pense, enfin, les gouvernements qu'on a qui se succèdent ne pensent plus l'aménagement du territoire, ne pensent plus le bien commun. Ils sont complètement gestionnaires à court terme de ce qui est rentable, de ce qui ne l'est pas. Et pas pour le bénéfice de tout le monde. Donc le mot péréquation, c'est un mot qu'il faut remettre sur la table.
Un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est par rapport à l'emploi aussi. Mmh. On s'aperçoit, et on l'a vu en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que tout à l'heure tu disais les collectivités territoriales sont montées au créneau.
Bien sûr.
Mais parce qu'il y a eu une nouvelle loi en 2005, il leur devient possible à elles d'intervenir et de transférer au privé directement, à Lyon, Nice, etc. C'est comme ça. Hein. Donc, ce dont on n'a pas parlé, et le bilan qu'on en a fait en Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, c'est qu'à chaque fois qu'on a une prise en main, comme ça, par le privé, il y a des dégradations des conditions de travail pour les salariés et des suppressions d'emplois. C'est les premiers postes qui sont rognés.
Ah, c'est surprenant, ça tient.
Donc voilà, transition écologique, on en a parlé, l'impact économique, etc. Donc celui-là aussi, c'est un à ne pas oublier.
Tout à fait.
L'emploi est une variable d'ajustement structurel.
La première variable,
dans le cadre.
Donc c'est pour cette raison que nous organisons une soirée, donc le 24 janvier, à la Bourse du Travail.
En partenariat,
voilà,
Fakir et Attac, soutenu d'ailleurs largement.
Oui, alors il y a d'autres groupes qui nous rejoignent, d'autres groupes militants qui nous rejoignent.
Des syndicats, des organisations, voilà. Des associations, des citoyens, des mouvements citoyens, etc.
Et l'idée, c'est de se rebooster un peu autour de cette question-là, pour ceux qui ont besoin d'arguments, pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour signer, pour ceux qui veulent du matériel, des affiches, des tracts, etc. etc. C'est le moment de venir, voilà.
Et il y aura la possibilité aussi de pouvoir
signer. Bien sûr, évidemment.
Oui, et une deuxième soirée.
C'est ça qui est important. C'est non seulement vous allez parler, effectivement, comme vous avez fait là ce soir,
du fond,
hein, bien sûr, mais les personnes pourront voter. Donc il faut qu'ils viennent absolument avec le matériel
une
adéquat.
Pièce d'identité.
Pièce d'identité.
Passeport ou carte d'identité.
Et carte électorale.
Et carte électorale.
Pas obligatoire, la carte électorale.
C'est bien, s'ils ne l'ont pas, voilà. On peut s'en passer.
Il faut à minima, ou passeport ou carte d'identité, être inscrit sur les listes électorales. C'est très important.
Pour avoir le droit de voter,
voilà.
Oui.
Alors sinon, le problème, c'est que si vous vous inscrivez pour pouvoir voter, bah, du coup, vous augmentez le nombre de votants qu'il faut avoir. C'est paradoxe, en fait. Donc, mais bon, enfin bref.
Et oui, parce que le chiffre de 4 millions...
Bah, oui, c'est basé...
4 millions 7.
C'est basé, en fait, c'est un pourcentage de la population...
10%
du corps électoral.
Une deuxième partie sera probablement mise en place par ATTAC qui portera plus précisément sur toutes ces privatisations.
Donc, on rappelle l'heure.
Alors, c'est le
19h à la Bourse du Travail, salle Moissonnier, le 24 janvier 2020.
C'est le seul événement autour du référendum qui est prévu d'ici le mois de mars.
Il y a des équipes qui sont mises en place sur le terrain.
Oui. Alors, ce que Fakir,
des groupes, Fakir peut-être attaque aussi.
Voilà,
aussi
on a, on a depuis plusieurs mois, si ça vous intéresse, Fakir a mis en place des groupes dans chaque arrondissement de Lyon. Où vous pouvez vous inscrire et participer aux opérations de tractage, de signature, etc. Donc voilà, vous pouvez prendre contact avec Fakir Lyon. Donc c'est lyon@fakirpresse.info, l'adresse lyon@fakirpresse.info. Si vous voulez connaître s'il y a un groupe dans votre arrondissement, vous nous contactez et on vous donnera les coordonnées du groupe.
On aura aussi des fiches papier pour pouvoir remplir, pour ceux qui ne veulent pas le faire sur Internet, le formulaire CERFA.
C'est un CERFA. Oui.
Voilà, on en aura une cinquantaine aussi.
Mm-hmm. Et rappelez que c'est, voilà, ce mail et le lien aussi pour signer, on mettra tout ça sur le site Internet où vous pourrez également réécouter l'émission.
Super.
Et on va sur le blog des émissions de Radio Canu.
À Info Canu. Eh oui.
Merci à tous.
À bientôt.
On se retrouve dans deux semaines.
Bonsoir.
Bonsoir. soutien.